Je vais vous présenter notre conférencier. Sa conférence n'est pas à proprement parler une conférence de chimie, mais c'est un concept d'entropie et d'information qui a couru à travers tous les développements que nous avons eus pendant le mois d'août. Hein. Et donc, cette conférence est donnée par Roger Balian. Il est né en 1933, ancien élève de l'École polytechnique. Il a fait l'essentiel de sa carrière comme chercheur au CEA, Centre de l'énergie atomique, en recherche fondamentale, en physique théorique. Il a été aussi périodiquement enseignant, puisqu'il a été pendant ce temps-là aussi professeur de physique à l'École polytechnique. Il a aussi dirigé l'École d'été de physique théorique des Ouches pendant plusieurs années. Et il a eu d'autres activités d'administration, de conseil et d'édition scientifique. Il est actuellement conseiller scientifique au Centre de l'énergie atomique, en recherche fondamentale, en physique théorique. Ses travaux sont des travaux de physique théorique, il vous en parlera lui-même. Il est membre de l'Académie des sciences, de l'Académie royale des sciences d'Uppsala, de la Société française de physique. Parmi ses publications, des articles techniques dans des revues scientifiques internationales de physique, des articles de vulgarisation, et je signale comme livre « Du microscopique au macroscopique », deux volumes, aux éditions Ellipse en 1983, et en anglais « From Microphysics to Macrophysics », méthode et application de la physique statistique, deux volumes, Springer, 91-92. Merci.
Bon, je remercie M. Michaud de m'avoir invité à parler dans ce cadre qui est de plus en plus prestigieux puisqu'il attire les foules. Je vais vous parler du mot de l'entropie. Le mot d'entropie est un mot qui a été inventé par Clausius en 1865. Il a été inventé en comparaison avec le mot d'énergie, ce qui probablement explique l'erreur dont certains d'entre vous ont pu être victimes, puisque ma conférence est présentée sous le titre énergie et non pas sous le titre entropie. Cette confusion s'explique peut-être parce que le concept d'entropie est un concept extrêmement complexe. Nous en verrons différents aspects dans un moment. Et nous verrons aussi la définition originale dans un moment. Ce mot a été créé à partir d'une racine grecque qui signifie transformation. Et c'est c'est ce qui lui permet de s'insérer dans ce cycle qui porte sur les transformations en général. C'est un concept qui j'ai mis comme titre protéiforme, mais en fait ça ressemble à Protée par pas mal d'aspects différents. Protée était un dieu grec. C'est un dieu grec dont l'importance était capitale, mais un peu méconnue. C'est un peu la même chose pour l'entropie. L'entropie, son importance n'a cessé de s'affirmer depuis la création en 1865 du mot. Et maintenant, c'est un concept qu'on retrouve dans toutes sortes de domaines, que ce soit des mathématiques, de l'informatique, de la biologie, de l'économie, et naturellement les domaines initiaux de création de l'entropie, qui sont la physique et la chimie. Il ressemble à Protée aussi par le fait qu'il est difficile à saisir. Protée, vous le savez peut-être, était un dieu géant. Lorsqu'on réussissait à le saisir, on arrivait à prévoir l'avenir. Ben là, on va voir que l'entropie est liée à la prévision aussi. Et la raison pour laquelle on n'arrivait pas à le saisir, c'était justement parce qu'il se métamorphosait, il se changeait en toutes sortes de choses différentes. Et là aussi, nous allons voir que l'entropie a toutes sortes d'aspects différents. Nous en verrons très peu de ces aspects. J'en ai recensé à peu près une dizaine. Je commencerai peut-être par le plus pittoresque de tous, qui est une citation de Emmanuel, qui est un petit dialogue, qui dit « Vous savez naturellement ce que c'est que l'entropie ?»« Oui, dit-elle, essayant sans succès de s'en remémorer la formule. » Eh bien, l'entropie, c'est l'usure de l'érotisme. Alors ça, c'est l'une des définitions possibles. Le concept principal dont nous allons partir est un concept qui est issu de l'entropie, qui est un concept d'information, qui est le concept d'information et le concept apparenté de manque d'information dont nous allons partir. C'est un concept qui date de 1948. Ensuite, après avoir balayé un petit peu ce que signifie ce concept, nous reviendrons sur la définition originale de l'entropie qui, comme je vous l'ai dit, date de 1865. Apparemment, ces deux concepts n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais nous verrons progressivement, d'abord en essayant de comprendre l'interprétation microscopique de l'entropie elle-même en quoi ça peut ressembler au manque d'information et pourquoi ça a inspiré la création du manque d'information. Et ensuite, pour finir, nous montrerons en réalité que ces deux concepts sont vraiment équivalents, ce qui nous mènera dans des voies un petit peu variées. J'ai mis ici pour mémoire un cinquième manque qui est traité dans le texte écrit que je fournirai, mais je pense qu'il est préférable que je fasse l'impasse ici. Je le signale pour mémoire, simplement parce qu'au cours des 50 dernières années, c'est un concept qui a énormément bougé. Il ne faudrait pas croire que c'est un concept ancien, comme ce dont je vais vous parler risque d'en donner l'idée. Je ne suivrai pas l'ordre historique, comme vous voyez. Et là, c'est quelque chose qui est assez caractéristique de la thermodynamique et de ses avatars. La thermodynamique est une science qui a toujours procédé à l'envers. Par exemple, la loi d'écoulement de la chaleur a été énoncée par Fourier en 1811, et il a fallu attendre la fin du siècle, du 19e siècle, pour qu'on comprenne ce qu'était la chaleur, c'est-à-dire un mouvement désordonné des atomes du corps. Donc, sans connaître du tout la nature de la chaleur, sans même savoir qu'il y avait conservation de l'énergie, Fourier a énoncé les lois d'écoulement de la chaleur en 1811. De même, le deuxième principe, il s'appelle deuxième, mais en réalité le deuxième principe a été créé en 1824 par Carnot, alors que le premier principe, on a attendu 20 ans pour le découvrir. Donc le premier principe est venu 10 ans après le premier. Donc on fonctionne vraiment à l'envers. L'information, elle, a été créée 100 ans après l'entropie elle-même, et pourtant, nous verrons que c'est plus simple à comprendre et plus clair. Je commence donc par la quantité d'information. La quantité d'information est un concept qui est issu de la théorie de la communication. La théorie de la communication a été créée, il y a des dates précises dans ce que je dis, c'est rare d'habitude. Ça a été créé par Shannon et Weaver en 1948. Shannon et Weaver étaient des mathématiciens, je veux dire, qui en même temps travaillaient dans des domaines de sciences appliquées. Ils travaillaient pour une compagnie de téléphone américaine. Et leur but était d'essayer d'améliorer les performances techniques des lignes téléphoniques et d'essayer, dans une ligne téléphonique, de faire passer le maximum d'informations. Donc, ils ont créé à cette occasion la théorie des communications qui s'applique non seulement aux communications téléphoniques, mais à toute communication, y compris la communication qui a lieu en ce moment. Il est essentiel pour le problème qui se pose, c'est d'améliorer la communication. Et pour améliorer la communication, il faut savoir ce dont on parle. Il faut savoir chiffrer la quantité d'informations qu'on veut essayer de faire passer. Donc, le premier but de Shannon et Weaver a été, avant tout, de chiffrer une quantité d'informations, de trouver mathématiquement comment mettre un nombre derrière une quantité d'informations. C'est ça dont on va parler dans une minute. On a vu plus tard que le même problème se posait exactement en ce qui concerne les mémoires informatiques ou les mémoires, de façon générale, les disques de musique ou n'importe quoi. Tout ce qu'on veut mettre en mémoire, on a envie d'améliorer la capacité de stockage d'informations sous forme de documents visuels, sous forme de documents auditifs ou n'importe quoi. Et essayer d'améliorer ça suppose qu'on puisse chiffrer aussi la quantité d'informations de façon à mettre le plus possible dans une mémoire. Alors, d'abord, Shannon et Weaver ont commencé, Shannon plutôt, d'abord, a commencé à analyser d'abord ce qu'est un système de communication. Un système de communication comporte une émission et une réception à l'autre bout. Dans l'intervalle, il y a un canal de transmission. Le canal de transmission, c'est ce qui se passe ici. Et puis, ils ont noté qu'il y a un codage et un décodage qui ont lieu. Le codage a lieu au départ, au moment de l'émission. Le codage ici est tout simple. C'est le codage en langue française orale qui est utilisé par moi. Et le décodage, c'est vous qui le faites. Et le canal de transmission, c'est le son. Mais naturellement, dans un système de communication comme le téléphone, le codage, c'est la transmission, c'est la transformation en signaux électromagnétiques. Le canal de transmission, c'est les lignes que l'on utilise, et le décodage se fait à l'arrivée. Ils ont noté que ce codage et ce décodage étaient quelque chose d'important. Alors ensuite, ils ont dit ce canal de transmission, c'est une chose dans laquelle il y a un certain débit possible. Si je parle trop vite, ben, le son il va se réverbérer, ça ne passera pas bien. Et d'autre part, ce canal de transmission, il y a du bruit, c'est-à-dire il y a perte de signaux. Le bruit, c'est peut-être vous qui en êtes responsable parce que de temps en temps, vous débranchez. Mais ce bruit, ça peut être aussi que je parle mal, que le son passe mal à travers le micro, etc. Donc, il y a possibilité de perte de signaux et il y a une limitation à la capacité de ce canal. Donc, l'idée, c'est d'améliorer le codage de façon à utiliser au mieux ce canal de transmission. C'était ça leur but essentiel. Bien, alors, pour faire ça, ce qu'il faut faire, d'abord, c'est de chiffrer donc, cette quantité d'informations, de savoir combien il y a d'informations dans un message. Alors, il y a plusieurs remarques qui servent de base à l'introduction de ce nombre qui est la quantité d'informations. La première remarque, c'est qu'un message en soi n'a pas de sens. Un message, si on veut qu'il ait une signification, il faut que ce message fasse partie d'une famille de messages possibles. Bon, si le message, par exemple, c'est le numéro du cheval gagnant dans la course de demain, à Deauville, où je vais, j'ai reçu une invitation hier pour être dans les tribunes, donc ça sera amusant. Bon, ce message ne présente d'intérêt que si on connaît la liste de tous les chevaux, sinon, si je sais seulement que c'est le cheval 18 et que ce cheval 18 est le seul à courir, le fait de savoir si oui ou non il a gagné m'apprend strictement rien. Donc, un message fait partie d'une famille, et cette famille, dans le jargon de la théorie de la communication, on appelle cette famille le langage. Bon, de même que le message que je vous transmets actuellement fait partie du langage semi-scientifique utilisé en physique. Alors, maintenant, deuxième remarque, dans ce langage, chacun des messages qui peut être émis a une certaine probabilité. Donc ça, c'est l'idée de base de Shannon, c'est le fait que la probabilité joue un rôle là-dedans. Par exemple, si je reprends mon exemple des chevaux dans les courses, bien, il y a une certaine probabilité pour que le 17 gagne, il y a une certaine probabilité pour que le 12 gagne. Le 12 est un cheval complètement naze, c'est un outsider, donc il a peu de chances de gagner. Le 17 est le grand favori, il a pratiquement toute chance de gagner. Donc il y a une certaine probabilité pour que je reçoive l'un des messages ou l'autre. La probabilité pour que je reçoive 17 est plus grande que la probabilité pour que je reçoive 12. Et l'idée de Shannon, à ce moment-là, a été de dire la quantité d'informations que je reçois doit être une fonction de cette probabilité. Si la probabilité de recevoir un message est faible, là, je reçois beaucoup d'informations. Si c'est un cheval complètement outsider, mauvais comme tout, qui a gagné, ça c'est une information considérable que je reçois. Si le cheval 17 était pratiquement sûr de gagner, je reçois pratiquement aucune information en sachant qu'il a gagné, ben, je dis oui, bon, je savais bien qu'il allait gagner. Donc la quantité d'informations que je reçois au moment où j'apprends qu'un message a été émis et que je l'ai reçu, cette quantité d'informations doit être une fonction décroissante des probabilités. Troisième remarque, la quantité d'informations doit être une quantité additive. Si je reçois le résultat de la première course et le résultat de la deuxième course, indépendamment, séparément, la quantité d'informations que j'ai reçue doit être évidemment la somme des quantités d'informations. La quantité d'informations que je reçois en lisant l'ensemble du résultat des courses doit être la somme de ce que je reçois en lisant séparément les résultats, étant donné que chaque course est indépendante de l'autre, ce n'est pas les mêmes chevaux qui courent. Donc, ça doit être une quantité additive. Alors, en partant de ces idées, Shannon a introduit l'idée qu'il y a un message, petit m, ce message transporte une certaine quantité d'informations. Cette quantité d'informations, ça va mal, j'ai oublié de couper ça. Cette quantité d'informations est une fonction de la probabilité. Et cette fonction est un logarithme. Le logarithme, il est simplement là pour dire que la probabilité de la première course multipliée par la probabilité de la deuxième course, c'est la probabilité pour les deux courses à la fois. Donc si je multiplie les probabilités, les informations doivent s'ajouter. Donc voilà l'expression de la quantité d'informations qu'il a déduite de ces hypothèses. on prend un logarithme à base 2 de façon à ce que l'unité d'information soit le bit. Un bit d'information, c'est la quantité d'information que l'on reçoit quand il y a deux messages possibles seulement. Par exemple, si je joue à pile ou face, bien à pile ou face, j'ai deux messages seulement avec la même probabilité, pile ou face. Si je reçois le résultat, il faut que j'acquière un bit, donc logarithme à base 2 de 1 sur 1,5, c'est-à-dire logarithme à base 2 de 2, c'est 1. Donc c'est un bit d'information. Ça, c'est le premier concept. Le concept qui va nous servir le plus, ce n'est pas tout à fait celui-là, étant donné que dans notre ligne téléphonique, on veut faire passer toute une série de messages, c'est la quantité d'information moyenne portée par l'ensemble de tous les messages qui constituent le langage. Cette quantité d'information moyenne est obtenue donc en prenant la quantité d'information que porte chacun des messages possibles et en le pondérant par sa probabilité. Mais on peut le voir d'une autre façon aussi, on peut se dire, je suis aujourd'hui, le message sur le résultat des courses, je vais le recevoir demain. Quelle est mon incertitude aujourd'hui? Quelle est ma perplexité en attendant de recevoir ce message? Ma perplexité, c'est évidemment la quantité d'informations moyenne que je recevrai demain, quand je verrai le résultat. Donc c'est ce même nombre qui s'appelle le manque d'informations. Donc le manque d'informations, c'est la pondération de la quantité d'informations, c'est le manque d'informations avant réception du message, ou l'incertitude, ou mon incertitude avant, c'est-à-dire c'est du point de vue de celui qui va recevoir le message. Si tous les messages sont également probables, c'est cette expression-là que nous allons utiliser tout le long, ça se réduit simplement au nombre de messages possibles, dont chacun a la probabilité 1 sur W, donc cette expression-là se réduit tout simplement au manque d'information I, qui est le logarithme à base 2, du nombre de messages possibles. Donc plus il y a de messages possibles, plus ma perplexité est grande naturellement. S'il y a un seul message possible, s'il n'y a qu'un cheval qui a couru dans une certaine course, ce qui je crois est interdit, je n'ai aucune perplexité, je sais exactement lequel va gagner, donc la quantité d'information est zéro. S'il y a un grand nombre de chevaux, ma perplexité est beaucoup plus grande. Donc voilà un peu tout sur l'information et sur le manque d'information. À quoi ça a servi? Ça a servi à Shannon et Weaver à annoncer un théorème remarquable qui nous dit que dans une ligne de communication, il existe un codage optimal. Ce codage que j'avais mis tout à l'heure ici, il est possible de l'optimiser de façon à utiliser au mieux les capacités de ce canal de transmission. Vous en avez des idées de ce codage optimal? Par exemple, par le fait que le codage qu'on utilise pour le téléphone n'est pas le même que le codage qu'on utilise pour la musique, ce n'est pas le même codage qu'on utilise pour graver des CD ou le codage qu'on utilise pour les téléphones portables. Ce n'est pas le même codage non plus qu'on utilise pour la photo, pour laquelle on trame l'ensemble de la photo, on regarde toute la photo, et le codage qu'on utilise pour le fax. Le grand progrès dans la construction des fax a été justement de remarquer que dans un fax, si on veut transmettre ça, il y a énormément de blanc. Donc on ne va pas transmettre ce qui se passe là, on va simplement transmettre ce qui arrive au fur et à mesure de la lecture. Une autre application de la théorie de l'information est en biologie, je la mentionne juste pour mémoire. En biologie, il y a un codage, qui est le codage génétique, qui se trouve en nous. Nous avons à l'intérieur de nos chromosomes un alphabet de 4 lettres, et cet alphabet de 4 lettres sert pour coder les protéines qui, elles, sont codées par un alphabet de 20 lettres. Un autre aspect de la théorie de l'information qui va nous servir dans la suite, c'est de remarquer que ce que j'ai dit ici dans le cadre de la théorie des communications peut tout simplement s'étendre à la théorie des probabilités. Ça a été fait tout de suite dès que la théorie de l'information a été créée. On s'est dit, après tout, ce nombre I, qui est le manque d'informations associé au langage, qui est issu de la quantité d'informations contenues dans chaque message, ce manque d'informations associé à ce langage, je peux aussi le transcrire en théorie des probabilités. Alors, en théorie des probabilités, pour n'importe quel événement, il n'y a plus besoin que ce soit des messages qu'on transmet. Il y a des événements qui correspondent aux messages. Ce qui correspond au langage, c'est la loi de probabilité pour l'ensemble de ces événements. Et cette loi de probabilité, je peux la caractériser par un nombre i, qui est l'incertitude de la loi de probabilité, qui est l'étalement de la loi de probabilité. Et pour des probabilités égales, je vous rappelle que c'est simplement le logarithme du nombre d'événements, tous également probables. Donc ça, c'est l'utilisation en théorie des probabilités. Il y a eu des utilisations pratiques intéressantes. Par exemple, on prend une photo, la photo est floue, on veut lire le numéro de la plaque de voiture qui a fait une infraction. On a une certaine probabilité pour que tel chiffre soit un 2 ou un 4. Cette probabilité, on essaye de l'optimiser. Pour l'optimiser, on cherche une loi de probabilité de façon à rendre cette incertitude, cet étalement aussi grand que possible pour ne pas mettre de biais dans la loi de probabilité. Donc, voilà la théorie de l'information. Je passe maintenant à la deuxième partie de ce que je vais dire et je retourne au 19e siècle pour introduire l'entropie, apparemment un concept qui n'a rien à voir avec la quantité d'information. L'entropie est issue de la thermodynamique. La thermodynamique est une science qui a été créée au début du 19e siècle, principalement par Carnot en 1824, dans le but d'optimiser, c'est tous les deux, c'est comme l'information, c'est un côté technologique, dans le but d'optimiser le rendement des machines thermiques. Le livre de base s'appelle « Les réflexions sur la puissance motrice du feu » et le titre occupe une dizaine de lignes supplémentaires. La thermodynamique s'est ensuite transformée, à partir de ce côté un peu technologique, en une science des transformations. Et la thermodynamique nous dit, finalement, quelles sont les transformations qui sont permises, quelles sont les transformations qui sont interdites. La thermodynamique nous dit il n'est pas possible de fabriquer de mouvements perpétuels, c'est-à-dire de créer de l'énergie. La thermodynamique nous dit aussi qu'il est impossible de faire marcher des machines de seconde espèce, par exemple un bateau qui avancerait dans la mer en utilisant la chaleur qui est contenue dans la mer et en refroidissant la mer de façon à fabriquer des glaçons. Alors on verrait le bateau qui avancerait avec dans son sillage en laissant des glaçons. Du point de vue de l'énergie, l'énergie est conservée, mais ceci est interdit. Alors, un point important dans la thermodynamique, c'est l'existence de transformations réversibles et de transformations irréversibles. Une transformation réversible, c'est une transformation dans laquelle, si une transformation est permise, la transformation inverse l'est aussi. Si je prends un pendule et que je le laisse se balancer, il revient. Donc cette transformation est possible. La transformation inverse l'est aussi. Ça, c'est réversible. Cependant, la plupart des transformations sont irréversibles. Si je prends du café et du lait que je les mélange, si je les regarde spontanément, ça ne se séparera pas. Donc il y a des transformations dont l'inverse est interdit. Alors la thermodynamique repose sur plusieurs principes, sur quatre principes, j'en citerai que deux. Le premier principe concerne la conservation de l'énergie. Le premier principe nous dit qu'il y a différentes formes d'énergie, la chaleur, le travail, l'énergie électrique, etc. Toutes ces formes peuvent s'échanger les unes dans les autres, mais au total, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, il y a une grandeur conservée, qui est l'énergie. Le deuxième principe, lui, c'est celui sur lequel je me concentrerai le plus. Ce deuxième principe est beaucoup plus abstrait et extrêmement difficile à saisir. Ce deuxième principe s'énonce de la façon suivante, dans sa présentation moderne. Il existe, pour chaque système physique, une fonction qui s'appelle l'entropie. Cette fonction dépend de l'état du système et cette fonction a une particularité remarquable, c'est que toutes les fois qu'un système subit une transformation irréversible, et ceci est la règle quand un système est isolé, lorsqu'un système est isolé et qu'il évolue spontanément, ces transformations sont irréversibles, alors cette fonction croît au cours du temps. Cette fonction est une fonction d'état, elle dépend de l'état du système. Par exemple, l'entropie du gaz qui est dans cette pièce dépend de l'état de ce gaz. L'état de ce gaz, lui, est caractérisé par trois nombres. Il y a le volume de la pièce, la température du gaz, et puis la densité du gaz. Donc ces trois nombres suffisent à caractériser l'état de cette pièce, et l'entropie est une certaine fonction de ces trois variables. Cette fonction est accessible à l'expérience. On peut, par des expériences, évaluer l'entropie, donc savoir que l'entropie d'un gaz a une certaine forme, que je n'écrirai pas. Comme dit Emmanuel, elle dit « Oui, dit-elle, essayant sans succès de s'en remémorer la formule. » la formule est assez compliquée. Mais cette formule existe, elle est dans tous les livres, donc c'est une fonction qui existe. L'entropie d'un système qui est constitué de plusieurs parties, bon, par exemple l'entropie de cette pièce plus de vous, plus de cette table, plus de ce projecteur, etc., est simplement la somme des entropies de chacun des morceaux séparément. Bon, alors la chose remarquable dans l'entropie, c'est que c'est une fonction qui caractérise l'existence d'une flèche du temps. Vous voyez, la flèche du temps me dit que certains événements sont possibles, les événements inverses ne le sont pas. Cette fonction, c'est une fonction qui nous permet de mesurer cette flèche du temps, qui nous permet de mettre un nombre derrière. Si la différence d'entropie est très faible, si un événement et l'autre événement sont liés par une petite différence d'entropie, on peut presque revenir à l'état initial, donc la transformation est presque réversible. Si les entropies sont très différentes, si par exemple je prends un corps chimique et qu'il y a une explosion, les différences d'entropie sont très grandes, et après cette explosion, jamais on reviendra à la situation initiale. Donc l'entropie caractérise l'existence d'une flèche du temps, et elle sert à la thermodynamique, elle sert de base à tous les raisonnements thermodynamiques. Par exemple, en ce qui concerne le rendement des machines thermiques, l'entropie me dit que si une machine thermique, qu'est-ce que c'est ? C'est une source de vapeur, ensuite il y a une turbine, et ensuite il y a une grande tour de refroidissement derrière, pensez à une centrale électrique. Eh bien, la quantité d'entropie totale de tout cet ensemble-là doit croître au cours du temps. Alors, ceci, c'était à l'origine l'entropie. Ensuite, quand le temps a passé, à la fin du XIXe siècle, on a reconnu que c'était pas forcément lié à que l'entropie n'était pas forcément liée à la chaleur. Et on a eu d'autres paradigmes, par exemple le paradigme de mélange, le mélange de café au lait que je vous ai dit tout à l'heure. Le café au lait a une entropie qui est supérieure au café plus le lait, ce qui fait que quand on les mélange ensemble, bon, ben, cette transformation est irréversible. De même, une réaction chimique spontanée, une combustion, l'entropie de l'état final est supérieure à l'entropie de l'état initial, donc elle se produit dans ce sens. Bon, alors tout ceci est bien beau, c'est un postulat, c'est un principe, mais c'est infiniment mystérieux. Bon, j'ai le souvenir d'avoir été initié à l'entropie par la thermodynamique, j'ai rien compris, et je pense que vous tous, si l'un d'entre vous me dit qu'il a compris ce que c'était l'entropie au départ, je lui dresse une couronne. Pourquoi est-ce qu'il existe une fonction pareille ? Qu'est-ce que c'est que cette fonction ? Qu'est-ce qu'elle signifie ? Quelle est sa nature ? Pourquoi est-ce qu'elle croît au cours du temps ? Tout ceci est très mystérieux. Alors très vite, ceci a excité l'imagination des gens, et en particulier l'imagination de Boltzmann. Boltzmann qui, dans le dernier tiers du XIXe siècle, a consacré une quantité énorme de travaux à ce problème, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'entropie. Alors il y a une série de travaux, j'en parlerai d'un seulement. Les travaux de Boltzmann sont des travaux qui sont considérés comme étant à l'origine d'une science nouvelle, qui est la physique statistique ou la mécanique statistique. L'idée de cette science, c'est de dire, au lieu de regarder un objet comme celui-ci à notre échelle, eh bien, je regarde cet objet à l'échelle microscopique. Comment est-ce qu'il est constitué à l'échelle microscopique ? Et ceci doit me permettre de progresser dans ma connaissance si je le regarde à l'échelle microscopique. Alors, l'échelle microscopique, c'est l'échelle de l'angstrom. Un angstrom, je vous rappelle que c'est un 10 millionième de millimètre. Oui. À cette échelle-là, la nature est constituée d'atomes, de molécules ou d'ions. Ce verre est constitué d'atomes liés les uns aux autres pour fabriquer des chaînes de polymères. L'un des points importants de cette attitude, c'est de noter qu'à l'échelle microscopique, les lois de la nature, les lois de la physique sont extraordinairement simples. Les lois, en gros, en dehors de toutes petites choses, de petits détails, magnétisme, des choses comme ça, me disent essentiellement qu'il y a des particules chargées là-dedans, les noyaux et les électrons, et ces particules chargées interagissent par l'intermédiaire de forces électriques de Coulomb en 1 sur R, tout simplement. Donc les forces elles-mêmes sont toutes simples. Les règles du jeu sont les règles de la mécanique quantique, une fois qu'on les a digérées, sont des règles très simples qui tiennent en une page. Donc, finalement, nous avons des lois simples et unifiées. À partir de ces lois simples et unifiées, à notre échelle, nous voyons une profusion d'objets. Ce verre, cette table, cette montre, vous, moi, l'air de cette pièce, etc., qui sont extrêmement différents. Ces différents objets diffèrent les uns des autres, tout simplement par le fait que les agencements des atomes qui les constituent ne sont pas les mêmes, et surtout par le fait que le nombre d'atomes qui sont en jeu dans ces objets est extraordinairement grand. Je vous rappelle que si je prends une petite sphère de gaz de 1 micron de diamètre, donc c'est tout petit, bon, visible au microscope, dans cette sphère, il y a, je ne me souviens jamais, 100 millions de molécules d'oxygène ou d'azote. Donc 100 millions de molécules dans une sphère d'un micron cube, ça fait vraiment beaucoup. Que les agencements soient différents, ceci me donne des choses tout à fait différentes. Par exemple, le carbone s'agence en diamant ou s'agence en graphite. Ça ne ressemble absolument pas, et pourtant, c'est le même corps. Bien, alors, ça s'appelle la physique statistique, parce que le nombre d'éléments qui constituent les corps est extrêmement grand, donc on ne peut saisir et faire de la théorie que en faisant de la statistique. À l'époque de Boltzmann, cette idée était totalement hérétique. M. Boltzmann a été attaqué par la plupart des physiciens de son temps, et c'était un grand courage que de dire on ne voit pas les atomes, parce qu'à l'époque on ne les a pas vus, mais malgré tout je vais faire comme s'ils existaient, puis je vais voir si je ne peux pas bâtir une théorie simple pour expliquer les différentes propriétés. Alors, cette attitude est une attitude extrêmement fructueuse parce qu'elle permet plusieurs choses. Elle permet d'abord d'expliquer les principes, de mieux appréhender les concepts et les principes généraux de la thermodynamique. Avec cette attitude, par exemple, on comprend tout de suite que la pression n'est rien d'autre que le résultat des chocs des molécules sur la pression exercée sur cette table, des molécules d'air qui se promènent dans l'air ici. Ces chocs, chacun est extrêmement petit, il y en a un très grand nombre, mais au total, ça crée une impression de pression continue. La température est une manifestation de l'agitation thermique. La chaleur n'est autre que de l'énergie cinétique des molécules qui se promènent. Le premier principe n'est rien d'autre que la conservation de l'énergie des différentes molécules dans le gaz. Ce principe de conservation de l'énergie me dit que des mouvements désordonnés contiennent une certaine quantité d'énergie, mais un mouvement en bloc de gaz contient aussi de l'énergie, et l'une peut se transformer dans l'autre. Le deuxième aspect remarquable de la physique statistique, c'est qu'elle permet d'expliquer les propriétés spécifiques des matériaux. Bon, par exemple, la mécanique statistique permet très facilement d'expliquer les lois des gaz, la loi des gaz parfaits, PV égale KT, ou bien les équations de Navier-Stokes qui exprime le mouvement des molécules d'un fluide. Dans tout ceci, il y a quelque chose qui philosophiquement est extrêmement important et un petit peu négligé par les gens qui accusent le réductionnisme de tous les maux. Ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est du réductionnisme. C'est de réduire ce verre à sa structure microscopique. L'idée essentielle qui fait que le réductionnisme n'est pas quelque chose de mauvais, de méchant, c'est l'idée d'émergence. Et l'idée d'émergence, c'est le fait que, à partir de propriétés microscopiques ayant une certaine nature, d'un certain type, il peut émerger, et c'est difficile de comprendre pourquoi ça émerge et comment ça émerge, il peut émerger des comportements complètement différents. Bon, par exemple, à l'échelle microscopique, la physique est discrète, c'est des molécules discrètes qui sont là. Bon, à l'échelle macroscopique, c'est continu, le gaz est continu, ceci est continu. Ça, c'est facile de comprendre le passage de l'un à l'autre, il y en a beaucoup. Donc, c'est ce caractère « beaucoup » qui me permet de passer de l'un à l'autre. C'est moins facile déjà de comprendre comment on passe d'une physique microscopique qui est indéterministe, c'est de la mécanique quantique, c'est probabiliste, c'est indéterministe, à quelque chose qui est parfaitement déterministe. Si je lâche ce verre, je sais parfaitement comment il va tomber. Eh bien, je passe à quelque chose de déterministe grâce à la loi des grands nombres. Il y a beaucoup d'objets, de molécules là-dedans, et la loi des grands nombres fait que je passe de l'indéterminisme au déterminisme. De même, à l'échelle microscopique, tout est réversible. Si je regardais un film à l'échelle de l'angström, je ne saurais pas si le film passe à l'endroit ou à l'envers. À grande échelle, si je prends ce verre, s'il était en verre et que je le cassais, je vois bien qu'il ne va pas se reconstituer tout seul, donc on fait émerger l'irréversible du réversible. Alors l'émergence, comme dans les exemples que je vous ai montrés, est assez simple. L'émergence est beaucoup plus difficile quand il s'agit de l'entropie. Il s'agit de comprendre ce qu'est l'entropie. Et le grand mérite de Boltzmann a été de faire émerger l'entropie de la physique microscopique en partant de l'idée suivante. Considérons le gaz qui est dans cette pièce. Le gaz qui est dans cette pièce est caractérisé, je vous l'ai dit il y a une minute, par trois variables. Le volume, la densité, la température. Pour une valeur donnée de ces trois variables, c'est toujours le même gaz, il y a toujours les mêmes propriétés, mais il n'empêche que si je le regarde à l'échelle microscopique, j'ai une quantité de configurations considérablement différentes, un nombre de configurations inouï. Je peux changer les positions individuelles des molécules, je peux changer leur vitesse individuelle de façon totalement compliquée, à condition que l'énergie totale soit toujours la même. Donc il existe à l'échelle microscopique un nombre considérable de configurations qui toutes correspondent à l'état macroscopique que je considère, l'état à notre échelle. Ce nombre, on va l'appeler W à la suite de Boltzmann, c'est 1877 ça, et Boltzmann a montré, en partant du gaz avec des raisonnements compliqués qu'on a refait mieux depuis, il a montré une formule absolument remarquable, c'est cette formule qu'Emmanuel ne connaissait plus. Cette formule relie l'entropie, qui est une grandeur macroscopique à notre échelle, qui concerne les objets et qui dépend des variables macroscopiques, à un nombre qui, lui, est un nombre qui est un nombre de physique microscopique. C'est le nombre de toutes les configurations microscopiques qui sont compatibles avec les données macroscopiques sur le système. Et il a constaté que ça collait de prendre le logarithme de ce nombre, et devant, il y a une certaine constante, que depuis on a appelée la constante de Boltzmann. Cette constante est extraordinairement petite, elle vaut, si je mesure l'entropie en unité thermodynamique, c'est-à-dire en joules par Kelvin, elle vaut 10 puissance moins 23. 10 puissance moins 23, c'est vraiment tout petit, petit, petit. Ça correspond au fait que ce nombre de configurations microscopiques est un nombre absolument gigantesque. Même son logarithme est gigantesque, donc c'est vraiment un nombre colossal. Et donc, je relie des choses d'échelles différentes avec cette formule. Alors, cette formule, on peut aussi lui donner une interprétation probabiliste. En effet, on peut se dire, si jamais il y a W configurations possibles dans ce système, ces W configurations sont toutes également probables, puisqu'elles sont toutes également probables, je leur associe une probabilité 1 sur W, et ce nombre-là, en dehors de cette constante, ce nombre que je mets là, ce nombre, c'est un nombre que j'avais déjà introduit tout à l'heure en théorie des probabilités. Bon, alors je me place en 1960, où on avait reconnu ça, et je retourne à Boltzmann, et je constate que cette formule signifie rien d'autre que S égale K, la constante de Boltzmann, multipliée par le manque d'informations sur la loi de probabilité qui décrit l'état du gaz qui est dans cette pièce, loi de probabilité qui dépend bien sûr des conditions macroscopiques, c'est-à-dire des trois variables qui caractérisent l'état du gaz. Alors ceci, je l'ai mis sur ce petit tableau qui est là. Tout à l'heure, j'avais mis ce tableau que je vais compléter. Comme ça. La physique statistique apparaît en troisième colonne dans ce tableau. À chaque événement correspond une configuration en physique statistique. La loi de probabilité, c'est l'état thermodynamique, c'est-à-dire c'est une loi de probabilité qui dépend des trois variables pour le gaz. Et ici, le nombre que l'on associe à ça, ce nombre I, avec cette constante multiplicative ici, s'interprète comme étant l'entropie, avec les formules que je vous ai rappelées à nouveau. Alors, cette formule de Dua-Boltzmann est une formule qui a une importance considérable, et cette importance a été reconnue parce que je vous ai mis une photo là de la tombe de Boltzmann à Vienne, Sur la tombe de Boltzmann à Vienne, je ne sais pas si vous voyez de là-haut, il est écrit en haut de la tombe, S égale K log de W. Cette formule mériterait, je pense, d'être connue autant que E égale MC2. Là aussi, c'est pareil, on relie l'énergie et la masse, des grandeurs qui n'ont rien à voir. Il y a un coefficient C2 qui est gigantesque, ici il y a un coefficient K qui est tout petit, parce qu'on relie deux phénomènes de nature complètement différentes, à deux échelles complètement différentes. Cette formule est importante parce qu'elle a permis de comprendre la nature de l'entropie. L'entropie est une grandeur qui est microscopique, originellement, d'origine, et statistique. Elle est à la fois microscopique et statistique, c'est pour ça qu'on ne comprenait rien quand on la regardait à l'échelle macroscopique. C'est une formule qui est extrêmement utile parce qu'elle permet de calculer effectivement l'entropie. Si je voulais calculer l'entropie de cette pièce, du gaz qui est dans cette pièce, eh bien, il suffit que je calcule le nombre de configurations qui sont compatibles avec ce volume, cette densité et cette température. Tout ceci a créé ce développement immense de la mécanique statistique qui nous permet de comprendre le comportement des différents matériaux, comprendre les semi-conducteurs, les supraconducteurs, etc. Et enfin, cette formule a eu aussi une importance considérable qui ne se voit pas dans mon exposé puisque j'ai commencé mon exposé à l'enfer, c'est que c'est cette formule qui a inspiré Shannon pour introduire l'information. Donc cette formule-là est à l'origine d'une nouvelle science qui est la science de l'information. Bien, alors l'interprétation de l'entropie, je peux donner une interprétation un tout petit peu différente à l'entropie en disant que c'est une mesure du désordre. De la façon dont je l'ai introduit, c'était une mesure de notre méconnaissance, c'était une mesure de l'incertitude, mais je peux aussi dire que c'est une mesure du désordre. En effet, le désordre et la méconnaissance, c'est la même chose. Si je prends un paquet de cartes et que je le brasse bien, c'est parce que je ne sais rien sur ce paquet de cartes que je dis qu'il est désordonné. Si je suis un prestidigitateur habile et que je l'ai bien brassé, vous verrez quelque chose de parfaitement désordonné, vous ne pourrez faire aucune prévision. Moi, je sais que ces cartes sont rangées en réalité dans un ordre que moi je connais. Donc pour moi, le paquet de cartes n'est pas désordonné, donc je peux faire des prévisions sur ce jeu. Donc la notion d'ordre elle-même est une notion qui est une notion partiellement subjective. C'est une notion qui dépend de notre connaissance du système. Elle dépend des variables macroscopiquement contrôlables. En ce qui concerne le gaz, elle dépend des variables manuellement contrôlables en ce qui concerne le précipitateur. De même, si je prends mon bureau, si vous entrez dans mon bureau, vous direz qu'il est extraordinairement désordonné. Or, je peux retrouver très facilement au milieu d'une pile des choses parce que je sais comment il est rangé. Le cas du précipitateur n'est pas donné simplement comme un cas d'école parce qu'il existe en physique des expériences que je mentionne simplement ici, ces expériences qui s'appellent des expériences d'écho de spin, dans lesquelles l'expérimentateur est extraordinairement habile, il est capable de manipuler les moments magnétiques du système, il est capable de les manipuler de telle façon que le système se désordonne au bout d'un certain temps, donc le système paraît totalement désordonné, exactement comme le paquet de cartes qui a été brassé, mais en réalité l'expérimentateur est capable de faire une manipulation un peu compliqué, il met des champs magnétiques, ceci, cela. Ça s'appelle le sandwich magique, ce qu'il fait. Et cette espèce d'opération magique recrée de l'ordre dans le système. Alors ça montre bien que cette notion d'ordre est une notion qui est relative à la connaissance de l'objet. Et l'expérimentateur qui connaît bien cet objet est capable de reconstituer un ordre caché en manipulant des variables cachées, des variables que moi, qui observe l'expérience, comme celui qui regarde le précipitateur, auquel je n'ai pas accès. Alors, dans la dernière partie de mon exposé, je vais parler d'une autre expérience qui n'est pas une véritable expérience, qui est une expérience de pensée, qui a été imaginée par Maxwell en 1867, et cette expérience qui s'appelle l'expérience du démon de Maxwell, c'est une expérience qui n'est pas réalisable, comme vous allez le voir, mais qui suppose que c'est un démon qui va la réaliser. Cette expérience a secoué les physiciens pendant plus d'un siècle, et l'explication de tout ceci n'est que l'explication complète est une explication assez récente. Alors, je vous décris l'expérience, c'est l'expérience du démon de Maxwell. Le voici. Alors, il y a un récipient qui est divisé en deux parties égales, A et B. Ce récipient contient un gaz. Bon, alors ce gaz, je l'ai schématisé, j'ai mis très peu de molécules, mais en réalité, il y en a des nombres absolument colossaux, il y a des 10 milliards de molécules. Chacune a une vitesse, il se promène là-dedans. Et puis, il y a un petit trou qui est percé dans la cloison qui sépare le récipient A du récipient B, et les molécules peuvent passer librement, lorsqu'elles arrivent là, d'un côté à l'autre. Bon, s'il n'y a rien, oubliez ce qui est en rouge et vert. S'il n'y a rien, de temps en temps, il y a une molécule qui passe de A vers B, de temps en temps, il y en a une qui passe de B vers A, et au total, la densité reste à peu près la même dans les deux récipients. Alors, Maxwell a imaginé qu'il y avait un petit démon qui est là, et ce petit démon a un opercule qui tient à la main, et puis toutes les fois qu'il voit arriver une molécule qui vient de A, qui va vers B, plouf, il ferme le petit trou, donc la molécule repart, et toutes les fois qu'il y a une molécule qui vient de B, il la laisse passer. Qu'est-ce qui se passe ? Bien, au bout d'un moment, les molécules progressivement passent de la droite vers la gauche. Il y en a de moins en moins du côté B. Puis si on attend suffisamment longtemps, le démon il est patient, il a l'éternité devant lui. Même sans éternité, on peut même mettre des nombres dessus et voir que finalement, le gaz se met à occuper entièrement la position A. Or, je vous ai dit que l'entropie est une fonction qui croît avec le nombre de configurations. Il y a évidemment beaucoup moins de configurations lorsque toutes les molécules se trouvent du côté A que lorsque les molécules se trouvent partagées du côté A et du côté B. Donc, au total, l'entropie a décru lorsque on est passé du gaz qui se trouvait en A et B à la situation finale où le démon a réussi à faire passer les molécules. Donc, le démon a réussi à violer le deuxième principe. L'entropie de ce gaz a décru. Et bien sûr, on peut faire décroître l'entropie d'un système en injectant du travail, par exemple. Dans un réfrigérateur, vous injectez du travail que vous pompez sur votre compteur, du travail électrique par le compresseur, et vous réussissez à faire augmenter l'entropie de votre réfrigérateur, de l'ensemble réfrigérateur-cuisine. En fait, vous chauffez plus la cuisine que vous ne refroidissez le réfrigérateur. Donc au total, vous faites baisser l'entropie. Lui, il est arrivé aussi à faire baisser l'entropie, mais il n'a exercé aucun travail parce que cet opercule est très léger, puis il le manipule dans ce sens. Il n'y a aucune force nécessaire pour manipuler cet opercule. Donc c'est un gros paradoxe. Et ce gros paradoxe n'a été résolu, je vous l'ai dit, que très récemment. La première idée pour résoudre le paradoxe est une idée qui est due à Szilard, qui est un physicien hongrois en 1929, qui a dit « Et si le démon arrive à faire ça, c'est que le démon sait dans sa tête où se trouvent les molécules. Si le démon ne savait rien, ben, il ne pourrait pas faire ce jeu-là. Donc il faut qu'il sache. » Bon, alors, savoir, ça ne voulait pas dire grand-chose. Il a fallu attendre la création de la théorie de l'information. Et la théorie de l'information, en 1948, nous a fourni les moyens de mesurer la quantité d'information que le démon avait. La quantité d'information qu'il a, ben, c'est de savoir où se trouvent les molécules, savoir où elles vont, comment elles vont, etc. Donc on peut chiffrer maintenant, depuis 1948, la quantité d'information que possède le démon. Alors il y a eu deux articles célèbres de Brillouin, en 1950, qui ont formalisé cette chose-là et qui l'ont mathématisée. Alors, Brillouin a d'abord remarqué une première chose, c'est que la quantité d'informations dont le démon doit disposer pour faire un tri et faire décroître l'entropie, cette quantité d'informations doit avoir une certaine valeur minimale. Cette valeur minimale, je l'ai marquée ici. Si le démon veut faire décroître l'entropie d'une quantité delta S, qui est négative, bon, j'ai mis une valeur absolue, il faut que son information soit supérieure à delta S divisé par la constante de Boltzmann. Alors il y a une démonstration qui est dans Brillouin qui montre que cette quantité d'information est supérieure à ça. Si sa quantité d'information, par exemple, c'est je veux savoir où se trouvent les molécules, si elles se trouvent à gauche ou à droite, pour chaque molécule, elle peut être soit à gauche, soit à droite, donc il y a un bit par molécule. Donc s'il y a n molécules, au total, il y a n bits, Donc ici, l'information du démon doit être au moins égale à n bits, et on remarque que la quantité d'entropie qui est nécessaire pour faire décroître, dont elle a dont le système a décru pour faire décroître le volume d'un facteur 2, c'est n fois le logarithme de 2, fois k, fois la constante de Boltzmann. Donc ça correspond exactement à cette formule qu'il y a ici. Donc Brillouin a montré ça de façon générale. Donc, première chose, cette expérience de pensée n'est rien d'autre que l'utilisation d'une information qu'a le démon pour faire baisser l'entropie. Donc l'information peut se transformer, comme a dit Brillouin, en négentropie, c'est-à-dire en entropie négative. On peut le dire ça autrement encore, on peut dire que, étant donné que nous savons maintenant que l'entropie n'est rien d'autre que notre information à nous sur l'état microscopique du système, il y a eu transfert d'information du démon vers nous, puisque à la fin, le démon, il n'en sait pas plus que nous, parce qu'à la fin, à partir du moment où nous savons que toutes les molécules se trouvent dans la partie gauche, l'entropie est basse, ce qui signifie que notre information a augmenté. Et cette information a augmenté d'une quantité qui nous a été donnée par le démon. Donc il y a eu éventuellement des pertes dans cette transmission, parce que le démon n'a peut-être pas bien fonctionné, n'a peut-être pas bien regardé, mais il y a eu perte. Donc il y a eu transfert d'information du démon à nous, ou bien il y a eu création d'ordre à partir de l'information. Deuxième remarque de Brillouin. La deuxième remarque de Brillouin consiste à dire « Oui, mais ce démon, cette information, il faut bien qu'il l'acquiert d'une façon ou d'une autre. Comment il va faire pour l'acquérir, cette information ?» Eh bien, il faut qu'il regarde. Comment est-ce qu'on regarde ? Bon, pour regarder, il faut une petite lampe électrique, il faut éclairer les molécules, et il faut que la lumière arrive sur les molécules, diffuse, pour que je regarde si elle est là ou si elle est là. Qu'est-ce qui se passe dans ce processus ? J'ai une lumière dirigée, orientée, qui, une fois qu'elle a diffusé sur les molécules, est désorientée. Qu'est-ce qui s'est passé dans le processus physique ? J'ai eu un mécanisme physique d'observation dans lequel il y a eu création de désordre. La lumière orientée s'est désorientée. Donc, en généralisant cette idée, toute mesure physique, toute acquisition d'informations nécessite un dispositif physique dans lequel il y a augmentation du désordre. Bon, alors, j'ai donné l'exemple de la lumière, mais c'est un exemple systématique. Tout appareil de mesure est un objet dans lequel le désordre augmente. Et Brillouin a montré que si on veut acquérir une quantité d'information I, qui est ici, la quantité d'information I acquise par le démon, eh bien, il faut que dans l'appareil, il y ait augmentation du désordre, augmentation de l'entropie, d'une valeur qui est égale à K fois I. Où K est la constante de Boltzmann. Alors d'habitude, quand l'information est une information simple, bon, est-ce que c'est là, est-ce que c'est pas là, le nombre I est un nombre fini, et ce K ici vaut 10 puissance moins 23, donc l'augmentation d'entropie est insensible. Mais ici, je vous ai dit tout à l'heure que l'information du démon, c'est N, le nombre de molécules. N, c'est de l'ordre de 10 puissance 23, multiplié par 10 puissance moins 23, la quantité l'entropie nécessaire au démon pour faire cette observation est absolument considérable. Donc son appareil de mesure pour détecter les molécules va être un appareil dans lequel il va y avoir une énorme irréversibilité. Donc au total, dans l'autre sens, alors tout à l'heure on a pu transformer de l'information en désordre, là on constate que le désordre est nécessaire pour acquérir de l'information. Bien, alors ceci me permet de conclure sur le fait que, étant donné qu'on peut faire des transformations dans les deux sens, d'ordre en information et inversement, ces concepts qui semblaient à l'origine complètement différents d'information ou de manque d'information et d'entropie, en réalité, c'est deux aspects différents d'un seul et même concept. Nous avons des tas de mots différents, l'incertitude, l'entropie, le désordre, il y a aussi la complexité dont je ne vous ai pas parlé ici, qui est une notion moderne. Tout ceci est chiffré par le même nombre, éventuellement à une constante du type constante de Boltzmann près. Ce que nous avons pu voir surtout, et qui est intéressant, c'est qu'il y a une connotation subjective là-dedans. L'entropie, c'est une grandeur qui caractérise non pas un objet en soi, mais qui caractérise la connaissance que nous avons de cet objet. Et si on y réfléchit bien, une probabilité, c'est exactement la même chose aussi. Une probabilité, ce n'est pas quelque chose qui est une propriété d'un objet, c'est une propriété de la connaissance que nous avons de cet objet. Et cette idée que la science s'occupe est un petit peu à cheval entre les objets et les observateurs, cette idée est une idée qui baigne toute la science contemporaine. Si on va dans les fondements de la science contemporaine, ben au fond, caché au fond, il y a la physique, et dans la physique, il y a quelle physique ? Il y a la physique quantique, qui est la physique à l'échelle microscopique, dans laquelle il n'y a que des probabilités. Et pour passer de l'échelle microscopique à notre échelle, il y a la physique statistique, dans laquelle, là aussi, il y a des probabilités absolument indispensables. Il y a 3 semaines, je pense, Ruel vous a parlé de la théorie du chaos, qui, elle aussi, est une théorie moderne, dans laquelle, là aussi, nous avons cette idée de probabilité, cette idée que même si nous connaissons totalement toutes les lois à l'échelle microscopique, même si ces lois sont connues, nos prévisions, elles, contiennent une certaine incertitude. Alors, je terminerai par des citations qui vont dans ce sens. La première citation, c'est, j'ai trouvé ça tout récemment, puisque la conférence de Ruel vient d'être publiée. Ruel dit « Le hasard n'est que l'expression de nos incertitudes ». Maxwell, déjà, c'est 1875, je crois, disait, à propos de l'entropie, précisément, que la confusion, de même que le mot « ordre » qui signifie à peu près la même chose, n'est pas une propriété des objets matériels en soi, mais seulement en rapport avec l'esprit qui les perçoit. Et je conclurai par un très mauvais jeu de mots, qui est que l'entropie, EN, a un caractère anthropique, AN, TRH, c'est-à-dire un caractère humain.
Bonjour monsieur, comment Boltzmann a fait pour trouver, pour fixer une valeur à la constante de Boltzmann, s'il vous plaît ? Merci.
C'est empirique, simplement. Boltzmann a commencé, avant d'écrire cette formule, il en a écrit une autre pour les gaz. Et dans les gaz, il est apparu qu'il y avait un certain nombre qu'il fallait mettre là. Alors pour les gaz, l'expression est un petit peu différente, mais c'est nécessairement quelque chose de... Ce nombre qui apparaît là est un nombre empirique. L'entropie pour un gaz, il y a une certaine expression que l'on peut mesurer. Il y a le R, qui est la constante des gaz parfaits, qui figure dans cette expression. La constante des gaz parfaits, PV égale RT, vous vous souvenez, c'est bon. Ce R a une certaine valeur qui était connue expérimentalement par les lois, déjà à l'époque du début du siècle, du 19e siècle, l'époque Gay-Lussac. À partir de la constante R, si vous prenez R divisé par le nombre de molécules du système, qui ne connaissait pas encore très bien parce que le nombre d'Avogadro était encore assez incertain, mais la constante de Boltzmann K, c'est le rapport R, la constante des gaz parfaits, divisé par le nombre d'Avogadro. Donc il a fallu un certain temps. Boltzmann n'a pas lui-même d'ailleurs écrit la formule K log W, elle a été inscrite sur sa tombe, je crois, en 1930. La constante de Boltzmann lui a été attribuée plus tard.
Monsieur, en haut.
Bonjour monsieur, merci pour cet exposé très clair. L'entropie permet de quantifier l'irréversibilité, de dire combien il y a d'irréversibilité, la flèche du temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Or, c'est un peu gênant de se dire le monde est irréversible parce que il y a la subjectivité. Quoi, le lien entre la subjectivité de... l'ordre qu'il y a dans les choses dépend de nous, de l'observateur ou du théoricien. Or, le monde est irréversible, on n'y peut pas grand-chose. Les gens meurent, les gens sont malades, les gens guérissent, par exemple. Donc, comment vous faites le lien ?
Merci.
Le lien, en fait, quand vous dites « le monde évolue vers le désordre », c'est pas c'est nous en fait, c'est un concept, le concept d'ordre, et un concept c'est quelque chose qui est le résultat de l'observation. moi, je, bon, c'est peut-être un paradigme, c'est peut-être pas, ça s'applique peut-être pas à des exemples comme l'homme, etc. Mais le concept même de temps, le fait que le temps s'écoule d'une certaine façon, etc., ceci est le résultat de nos expériences, de notre expérience quotidienne d'abord, de nos expériences de scientifiques de l'autre, et la part subjective, entre guillemets. Le mot de subjectif, je ne l'aime pas beaucoup, ça serait plutôt intersubjectif, ce serait plutôt ce que nous hommes, connaissons lorsque nous étudions tel ou tel problème. Bah, c'est ça qui nous dit que les choses évoluent dans un certain sens. Les lois de la nature, elles, les lois de la nature, on n'y a pas accès, nous ne sommes pas Dieu. Dieu n'existe pas pour le physicien. La seule chose que nous puissions dire, c'est « moi, j'observe les choses et je les vois évoluer de telle ou telle façon ». Dans l'exemple qu'a donné Ruel, moi, je trouve que c'est un paradigme de ce que je suis en train de dire de façon beaucoup plus schématique et beaucoup plus simple à concevoir. Je prends des équations parfaitement déterministes, j'ai des équations du mouvement, je sais très bien comment elles vont évoluer, elles sont déterministes. Donc, en principe, ces équations... Bon, ces équations elles-mêmes sont une fabrication de nous, mais enfin, à l'intérieur même de cette fabrication, j'ai les mathématiques d'une part qui, elles, sont une fabrication rigoureuse qui me dit que les choses sont déterministes, que si je me donne rigoureusement ceci ici, j'ai rigoureusement tel résultat là. Il n'empêche que si je veux faire une expérience numérique quelconque, si je mets ça dans un ordinateur, si je le pense mal, si je regarde mal mes conditions... Mais ma prévision est de plus en plus mauvaise, et l'irréversibilité, c'est le fait que je peux mal prévoir les choses. Ceci, je pense, l'expérience dont je n'ai pas parlé, l'expérience des échos de spin, qui ressemble un petit peu au prestidigitateur, en donne bien une idée. Suivant la façon dont je regarde les choses, je peux les connaître ou ne pas les connaître. Lorsque j'ai 100 millions de molécules que je ne peux pas suivre, bon, il est bien évident que ces 100 millions de molécules ont un comportement que je ne peux pas prévoir. Et à partir du moment où je ne peux pas prévoir, ben je dis le désordre augmente. Mais le fond des choses, je ne le connais pas et je ne le connaîtrai jamais. Est-ce que ça vous satisfait ?
Monsieur, ici.
Oui, bonjour. À l'échelle de l'univers tout entier, il y a une expansion de l'univers. Donc, par unité de volume, le nombre de singularités physiques, quelles qu'elles soient, diminue. Est-ce qu'on en déduit qu'il y a une augmentation de l'entropie à l'échelle de l'univers tout entier ?
J'aime pas beaucoup ça. Les cosmologistes le disent. C'est vrai mathématiquement. Cette expansion fait qu'il y a augmentation. J'aime pas beaucoup ça parce que pour moi, l'entropie est un concept lié à notre échelle et non pas à l'échelle de l'univers. J'aime pas beaucoup mélanger les échelles. Je me suis limité volontairement, délibérément, à deux échelles. L'échelle de notre vie courante, allant jusqu'à l'échelle de la taille du Soleil, etc. L'échelle de l'univers, je ne sais pas très bien ce que c'est. Parce que l'univers, c'est... là aussi, c'est un petit peu ce que j'en connais. Ce que j'en connais, c'est ce que je pourrais absolument pas connaître autre chose que ce qui est dans l'horizon de l'univers. Bon, il est vrai que je vois que je peux mettre un nombre qui ressemble à l'entropie et qui croît, mais je ne lui attribue pas une valeur considérable, parce que ça ne s'interprète pas tout à fait de la même façon. Bon, c'est une réponse pas satisfaisante, mais moi-même, je ne suis pas satisfait de cette situation.
Monsieur.
Bonjour. Alors... À propos de la flèche du temps, je voulais savoir ce que vous pensiez des travaux d'Ilia Prigogine sur la capacité de faire de l'ordre avec du désordre.
Alors en ce qui concerne les travaux de Prigogine, il y a un article absolument remarquable que je vous conseille, qui est un article publié dans Physicalia par Bricmont. Cet article insiste sur un point que Prigogine voit mal, et refuse de voir, c'est que Prigogine a tendance à attribuer l'irréversibilité au caractère chaotique de la dynamique. Or, il n'y a absolument pas besoin d'un caractère chaotique à la dynamique lorsque les systèmes auxquels on s'intéresse sont des systèmes eux-mêmes complexes. Il y a deux types de complexité. Il y a un premier type de complexité qui est la complexité des objets eux-mêmes. Puis il y a un deuxième type de complexité qui est la complexité de la dynamique. Si je prends un système très simple, bon, par exemple, je prends, vous savez, ces trucs qui se trouvent au Palais de la Découverte dans lequel il y a deux pendules couplées, on ne peut pas prévoir leur mouvement, ça s'appelle le chaos. À partir de 2 ou 3 degrés de liberté, nous avons un système dans lequel on n'arrive pas à prévoir les choses et du coup l'irréversibilité peut être attribuée de ces objets-là, peut être attribuée à la dynamique chaotique, c'est-à-dire au fait que la dynamique elle-même est complexe, bien que l'objet soit simple. Bon, alors Prigogine a tendance à mettre ça pour l'irréversibilité de la thermodynamique. Or, en thermodynamique, c'est absolument pas ça qui se produit. C'est l'objet lui-même qui est compliqué, même si sa dynamique est simple. Bon, par exemple, il y a des exemples remarquables de ça. Je prends un ensemble d'oscillateurs harmoniques. Je prends 10 puissance 23 oscillateurs harmoniques. C'est un système qui n'est absolument pas chaotique au sens mathématique du mot, parce que c'est une superposition de sinusoïdes. Il n'empêche que c'est quand même un système qui est imprévisible, tout simplement parce que le système lui-même est compliqué. Donc il ne faut pas confondre deux choses. Et dans Prigogine, il y a aussi une confusion que Bricmont souligne remarquablement bien entre l'imprévisibilité et l'indéterminisme. C'est deux choses complètement différentes et même opposées. Si je prends 100 millions de pièces de monnaie, je les balance en l'air et je les laisse retomber, il y en aura la moitié qui seront du côté pile et la moitié qui seront du côté face. C'est un système qui est complètement aléatoire. Et pourtant, c'est un système qui est prévisible. Inversement, j'ai l'effet papillon en météorologie, j'ai un système dans lequel, en météorologie, en principe, les équations, on est censé les avoir, ou bien je prends les deux pendules, en principe, on est censé avoir les équations. C'est un système déterministe, et bien que déterministe, c'est un système imprévisible, parce que la moindre erreur dans les données initiales s'amplifie et fait que je ne peux pas prévoir. Donc surtout, ne confondez pas, comme Prigogine, l'indéterminisme avec l'imprévisibilité.
Monsieur.
Bonjour, monsieur le professeur. Bon, nous vivons cinquième ou sixième génération des puces électroniques comme base informatique. Ils nous continuent à rouler dans les automobiles avec le moteur dont les principes ont été proposés par nous deux fois avant grand-père. Est-ce que c'est l'honte ou la gloire de la thermodynamique?
J'ai pas bien compris la question. Attendez, je vais vous donner une réponse à quelque chose qui n'est peut-être pas votre question, puis après vous me direz si c'est bien la question.
Il y a le paradoxe physico-chronologique. La centrale thermonucléaire compose de deux éléments principaux. Disons réacteur nucléaire comme source de la chaleur. Et après, machine thermique. Le réacteur nucléaire, c'est un succès de la physique du XXe siècle. Et machine à watts, machine thermique, disons turbine à vapeur, c'est une invention il y a deux siècles. La question, cette constatation, c'est la honte ou la gloire de la thermodynamique par rapport au développement d'électronique, par exemple.
Par rapport au développement de l'électronique, oui, c'était bien la réponse que je voulais vous donner. La chose importante est que ce que la physique moderne a permis de comprendre, c'est qu'avec des objets comme les semi-conducteurs, on peut descendre en échelle de plus en plus et... c'est une chose importante que de noter que cette constante de Boltzmann, qui est toute petite ici, relie deux choses. L'une qui est une notion d'information. L'information, c'est la notion dont nous avons besoin pour mettre les choses dans des mémoires, par exemple dans des mémoires d'ordinateur. Et le fait que cette constante soit toute petite implique que nous n'avons pas besoin de grands effets physiques, nous avons besoin de tout petits effets physiques ici, à notre échelle, pour réaliser ça. Et le fait que nous soyons capables de mettre des quantités d'informations absolument considérables, des gigabits, etc., est un fait qui, je pense, est, puisque vous parlez de gloire ou pas gloire, c'est à mettre à la gloire des pas des informaticiens, des électroniciens, des gens qui ont fait de la l'électronique et actuellement de la microélectronique et qui essaient de descendre encore en échelle, de façon à pouvoir avoir de plus en plus de quantité d'informations, même si les effets macroscopiques que l'on peut constater, par exemple l'échauffement des mémoires, ça c'est un problème important, le problème d'échauffement, qui correspond à l'augmentation de l'entropie, ces échauffements sont de plus en plus faibles au fur et à mesure que le temps passe. Il y a 50 ans, les ordinateurs, ça chauffait de façon absolument effroyable. Je me souviens de nuits que j'ai passées auprès d'un ordinateur à lampe dans un local qui était où on crevait de chaud, à cause des mémoires. Bon, ben, ça, c'est peut-être c'est la petitesse de la constante de Boltzmann qui permet ces progrès. Est-ce que c'est bien ça, votre question? Oui.
Bon. Madame, allez-y.
Bonjour, monsieur. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer quelle est donc cette constante de Boltzmann, 10-23, jk-1, 8 plus 1, s'il vous plaît?
Bien, cette constante de Boltzmann, c'est... Oui, la chose importante, c'est le joule par Kelvin par bit moins 1. Bon, alors, le bit, c'est une unité, simplement le logarithme à base 2. Si le logarithme était à base autre chose, on prendrait autre chose. Ça, c'est sans dimension. Ce qu'il faut constater là-dedans, c'est le joule par Kelvin. Bon, le joule est une unité naturelle d'énergie. C'est une unité qui résulte simplement du système mètre kilogramme seconde. Il y a une unité là-dedans qui est une unité un peu folle, qui est le Kelvin. Qu'est-ce que c'est que le Kelvin? Le Kelvin, c'est notre unité de température. Comment est-ce que le Kelvin est défini? Le Kelvin a probablement la définition la plus extravagante qui soit, parce que le Kelvin nous dit tout simplement que la température de fusion, ou de la température du point triple de l'eau, est de 273,15 Kelvin. On a pris pour définir le Kelvin l'un des corps les plus compliqués qui soit, qui est l'eau, qui est pourtant un corps extrêmement utile, comme je vais vous le démontrer dans une seconde. Mais cette eau est un corps très complexe, c'est probablement l'un des corps les plus compliqués sur le plan de la physique, et on a pris l'eau parce que c'était un corps courant, et on a pris son point de fusion comme zéro de l'échelle centigrade, et ensuite on a déduit le Kelvin. Toute unité raisonnable de thermodynamique consisterait à prendre comme unité de température l'inverse du joule à ce moment-là. Si on prenait comme unité de température l'inverse du joule, à ce moment-là, la constante de Boltzmann vaudrait 1. Alors évidemment, les températures seraient mesurées, ça serait des nombres qui ne seraient pas 1, 2, 10, 200, ça serait des nombres tout à fait ridicules. Mais ça serait, on aurait quelque chose de raisonnable. Mais c'est l'introduction du Kelvin comme unité de température qui nous introduit ce nombre. Bon, ben, l'unité de température naturelle devrait être une unité microscopique, parce que la température est une propriété qui est non pas une propriété à notre échelle ou à l'échelle de l'eau, mais c'est une propriété qui, profondément, est une propriété qui est à l'échelle des molécules. La température, c'est une grandeur qui est l'inverse de l'énergie cinétique des molécules du gaz, par exemple, en ce qui concerne la température d'un gaz. Ça va ?
Je ne sais pas trop à quoi ça correspond dans cette formule.
Comment ça?
Le 10 puissance moins 23 et le bit moins 1 dans cette formule, je ne vois pas très bien.
Ben, bit, c'est simplement que le logarithme à base 2 que vous voyez là, un logarithme à base 2, c'est un bit. I, un manque d'information se mesure en bit. C'est sans dimension, si on veut. Bon, ce bit, j'aurais pu ne pas le mettre. Mais K, qui a la même dimension que S. Bon, S, si vous connaissez un petit peu de physique, vous avez une formule qui vous dit que dU égale TdS. Donc, ça vous dit que l'entropie, c'est un rapport entre une énergie et une température. Donc, c'est une énergie divisée par une température en unité thermodynamique habituelle.
Bon, ici, et puis ensuite, une question. Non, on va s'arrêter. Hein.
Alors, je suis toujours intrigué par l'expérience des mondes Maxwell. Imaginons un instant qu'on remplace le démon de Maxwell par un petit système automatique, un petit clapet automatique. Il va y avoir des instants où des molécules du compartiment A vont rentrer dans le B, du B ne vont pas rentrer dans A, il y aura un déséquilibre de la pression qui ne sera pas naturel.
Oui. Ceci fait partie des travaux plus récents que les travaux de Brillouin. L'automatisation du démon de Maxwell a fait l'objet d'une littérature immense. Alors, l'automatisation du démon de Maxwell, c'est tout simplement le court-circuit de ces deux choses-là. Un démon de Maxwell automatisé, qu'est-ce que c'est ? C'est un mécanisme que l'on va mettre là, à la place du démon de Maxwell. C'est un mécanisme dans lequel il y aura fermeture ou ouverture du trou. Mais cette fermeture et cette ouverture doivent être commandées par un mécanisme de détection pour savoir si les molécules viennent de la gauche ou de la droite. Ce mécanisme de détection est un mécanisme dans lequel il doit y avoir augmentation d'entropie. Et au total, c'est comme si vous mettiez bout à bout ces deux formules-là. L'augmentation d'entropie de l'appareil de détection doit être supérieure à la baisse d'entropie du gaz. Autrement dit, dans le démon de Maxwell automatisé, il y a transfert d'entropie, tout simplement, entre l'appareil de mesure et le gaz. Alors, les travaux les plus récents, en fait, insistent sur un point, c'est qu'il faut fonctionner en cycle fermé pour que les choses fonctionnent bien. Donc, on fait fonctionner l'appareil en cycle fermé et on découvre une chose assez remarquable et assez étrange, c'est qu'un appareil de mesure, l'augmentation d'entropie a lieu non pas au moment où il fait la mesure, mais l'augmentation d'entropie a lieu au moment où l'appareil de mesure retourne dans son état initial. Qu'est-ce que c'est un appareil de mesure ? Un appareil de mesure, c'est un dispositif qui est dans un état un peu instable, qui attend qu'un phénomène se produise, et puis si le phénomène se produit, clac, il tombe d'un côté et l'aiguille va d'un côté. Si le phénomène ne se produit pas, clac, l'aiguille va de l'autre. Donc c'est un système qui typiquement doit être bistable. Et c'est pour le remettre dans cet état bistable que je dois injecter dedans de la négentropie. C'est-à-dire, inversement, que je dois faire croître son entropie. Donc l'entropie augmente au moment où je remets l'appareil de mesure dans la situation où il va pouvoir se remettre. Alors ça, cet appareil de mesure, c'est un truc automatisé dans ce que vous dites. C'est un truc automatisé qui va regarder où sont les molécules de façon à faire fonctionner l'appareil. Mais bon, ça supprime tout simplement ces deux parties de la formule. Ça nous dit simplement que ceci est supérieur à ça.
En autre dernière question, monsieur.
Puisque vous avez parlé, là, ce n'était pas le but de ma question, mais enfin, j'en profite de l'occasion là, de ce démon là, de Maxwell pour dire que son action relève d'une volonté. Il y a le facteur volonté qui est indispensable. Or, vous ne l'introduisez pas dans les formules. Naturellement, l'augmentation de l'entropie, la diminution en A, ne se fait pas naturellement. C'est une volonté qui est à l'origine du phénomène. Oui. Il faut introduire absolument cette volonté sans laquelle il n'a pas lieu.
Bon. La volonté, elle est dans cette partie-là. Mais cette volonté, la remarque qui vient d'être faite, montre que je peux la court-circuiter, cette volonté, parce que je peux très bien remplacer ce démon de Maxwell par un dispositif automatique.
Non, mais le dispositif automatique, lui aussi...
Dans lequel il n'y a pas de volonté.
Lui aussi, il répond à une volonté, parce qu'il a été réglé, etc., d'une façon à se produire...
Toute science, à ce moment-là, répond à une volonté.
Comment ? Pardon ?
Toute science répond à une volonté, à ce moment-là. Si je fabrique un appareil qui sert à fabriquer de la glace, bon, il y a une volonté, bien sûr, derrière. Mais bon, c'est pas...
Non,
mais l'appareil fonctionne à lui tout seul, il fonctionne tout seul, une fois que je l'ai fabriqué. Bon, bien sûr, tout instrument de physique, tout instrument de chimie, toute science...
Non, mais là, je ne parle pas de l'instrument lui-même.
Non, je parle du démon, ce que je suis en train de dire, c'est que le démon était une façon de mettre la pensée là-dedans et d'arriver à démontrer que le côté subjectif, le côté volonté, le côté information... peut être mis dans le même jeu que le côté physique, c'est-à-dire le côté entropie, mais je peux le court-circuiter, je peux l'effacer complètement, parce que j'ai aussi la possibilité de remplacer ce démon par un dispositif automatique, et à ce moment-là, il n'y a plus du tout d'intervention.
Je ne suis pas du tout de cet avis, que ce soit un appareil ou que ce soit le démon, c'est exactement pareil,
non.
Parce que l'appareil a été conçu et orienté et réglé à son fonctionnement
mais est-ce que vous connaissez
de façon à répondre à une volonté.
D'accord, mais est-ce que vous connaissez un seul appareil qui a été fabriqué par l'homme qui ne correspond pas à une volonté ?
Non, mais là, je ne dis pas que... Non, mais il y a une confusion qui se fait là. Je ne suis pas en train de dire que l'appareil, il a été conçu par une volonté. Oui, certes, mais il a été conçu par une volonté destiné à le faire fonctionner de façon à, ce à aller contre les lois naturelles.
Mais ce que fait l'expérimentateur des échos de spin auquel j'ai fait allusion, c'est exactement la même chose. Il fabrique son sandwich magique, c'est-à-dire il règle son appareil de telle façon qu'il y ait un champ magnétique suivant la direction X, un champ suivant Y, puis un champ suivant X à nouveau, etc. Une fois qu'il a fait ce réglage, bon, ben, son appareil fonctionne automatiquement. Il y a eu une volonté derrière, c'est vrai, une fois que cette volonté a été mise en branle, bah, tout le processus se déroule indépendamment de la volonté initiale de l'expérimentateur. Que... Ça sera pareil, là.
Alors, je crois qu'on a entendu vos arguments, mais je ne pense pas que vous serez convaincu.
On peut en parler
voilà,
en privé. On peut en parler en privé, si vous
on
voulez.
On va s'en tenir là. Hein.
Non, si vous... ça s'est présenté comme ça, accidentellement. Ce que je voulais dire, c'est que, si j'ai bien compris ce que vous avez dit de l'entropie, c'est un état vers lequel on tend inexorablement, comme par exemple l'érosion des montagnes, ça ne va pas en sens contraire, la montagne ne se constitue pas et elle s'érode jusqu'à devenir une plaine. Mais je ferai remarquer qu'en même temps, il y a une éruption qui a lieu et que la montagne se reconstitue. Donc, où est là le sens inexorable ?
Attention. Non, le sens inexorable, attention, il ne faut pas oublier que c'est pour un système isolé que l'entropie croît. Le système auquel vous pensez, là, n'est pas un système isolé. La vie elle-même, qu'est-ce que c'est ? La vie, c'est une diminution d'entropie, c'est une création d'ordre. Nous sommes bien plus ordonnés quand nous sommes là que quand nous quand nous serons plus là et que quand nous n'étions pas là. Mais pourquoi sommes-nous là ? Comment sommes-nous là, plutôt ? Ben, nous sommes là parce que notre environnement, lui, a eu une entropie qui a augmenté plus que la quantité d'informations ou d'ordre qui a servi à nous fabriquer. Et où est-ce que ceci s'est produit ? Ben, ceci s'est produit en dernier ressort dans le Soleil, parce que c'est l'énergie du Soleil qui arrive, qui est utilisée, consommée, et en définitive, par l'intermédiaire de l'assimilation chlorophyllienne, nous fournit des protéines, qui en définitive, etc. Donc, si on regarde toute cette chaîne et qu'on prenne un système isolé du reste du monde, alors ce système isolé, c'est le Soleil plus nous, et à ce moment-là, ce système isolé, lui, au total, son entropie a augmenté. Mais localement, rien n'interdit à de l'ordre de se créer, à de l'entropie de diminuer, ce qui est notre cas.
Merci beaucoup.